Pérec avec Memchet. Je vais faire un point où on en est. On a commencé à parler à partir du Pérec Memvav, à partir du chapitre 46, du concept de Akaratatov. Le concept de Akaratatov, c'est-à-dire du concept que, finalement, même si on ne comprend pas pourquoi qu'est-ce qu'on doit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on doit l'aimer, pourquoi on doit le craindre, on a expliqué que si on va développer, on va arriver à développer, mais ça va prendre plusieurs chapitres, un sentiment de Akaratatov. C'est quoi Akaratatov? C'est de dire qu'on doit quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui vous a fait une tova, quelqu'un qui vous a fait quelque chose de bien, naturellement, vous vous sentez redevable. Et il faut combattre ce sentiment. Ça veut dire que si quelqu'un vous fait quelque chose et que vous n'avez pas envie de lui rendre, ou bien quelqu'un vous sourit et vous ne voulez pas lui sourire en retour, il faut se forcer de ne pas lui sourire. Pourquoi? Parce que naturellement, on a dit « Kemaim apanim apanim, ken lev adam la adam ». Ça veut dire qu'un sentiment qu'une personne vous envoie, si le sentiment est sincère, naturellement, on va lui renvoyer. Donc on a expliqué que normalement, on devrait avoir le même concept par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et on a donné un exemple. Vous rappelez l'exemple du roi? On avait donné un exemple comme ça. Il dit, s'il y a un grand roi qui va donner de l'importance, qui va aller prendre dans la rue,
il va prendre
un clochard, d'accord, quelqu'un de négligeable, et il va le prendre, il va s'occuper de lui. Il va le faire entrer au palais, il va le faire entrer où les ministres n'entrent pas, etc. Donc il a dit, c'est évident que même si, vous savez, les gens comme ça, les clochards en général comme ça, ils sont insensibles. Mais il est évident qu'au bout d'un certain temps, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il va craquer. Il va dire, attends, le roi, il est tellement gentil avec moi. Donc il va être reconnaissant envers le roi. On a expliqué que c'est de la même manière avec Akadosh Baruch Hu. Merci.
De l'eau, toi ?
Bonjour.
Avec Akadosh Baruch Hu, donc ?
Baruch Ata Adonai Elenu Echolam Shakol Niyab Yudvan.
Tu nous as épaté,
c'est ça. Misrout Shalom Dov Ver.
Dov Ver, oui.
Il est au Nishmat, mon grand-père.
Ah, oui. Tant qu'à faire.
Bien sûr.
Donc il a expliqué que, la même manière, on a dit qu'à Kadosh Baruch Hu, théoriquement, c'est la même chose qu'il a fait avec lui. Il a fait la même chose. C'est que nous, on est vraiment insignifiants par rapport à Kadosh Baruch Hu. On est encore moins que des clochards. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous a pris, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la Torah, chose qu'il n'a pas donné même pas à ses ministres, donc même pas aux malachim, et il nous a donné du kavod. Seulement le problème qu'a dit l'Admor HaZaken, c'est quoi? C'est que tout ça c'est bien beau, je pense que vous étiez arrêté ici, ça c'est bien beau, mais ça ne nous parle pas. Pourquoi ça ne nous parle pas? Parce que qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la Torah, mais moi je me sens pas concerné, parce que moi j'étais pas là à la sortie d'Égypte. Tu sais, mon Maneshama était là, certes. Mais je me sens pas concerné. Je ne sens pas que ça me concerne que je suis sorti d'Égypte. Donc, est-ce que peut-être, on peut pas expliquer un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire la sortie d'Égypte? Est-ce que peut-être on n'a pas une manière moderne d'expliquer la sortie d'Égypte? C'est là qu'on a expliqué longuement dans le chapitre 47. Ah. Chapitre 47, on a expliqué, c'était un peu court, mais c'était costaud, on a expliqué que, c'est d'ailleurs le chapitre le plus court du Tania, chapitre 47. On a expliqué que...
Je rate tout ce que j'ai vu.
Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est un concept qui existe tous les jours. Pourquoi? On dit que Yetziat Mitzrayim, ça veut dire quoi? Mitzrayim, ça vient du mot, c'est très connu, de Metzarim. Ça vient du Maharal de Prague, qui dit que Mitzrayim, ça vient du mot Metzarim, les limites. Et Yetziat Mitzrayim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité, grâce à la Torah et aux mitzvot, de quitter les limites du monde matériel. Donc on a expliqué, d'accord, on a expliqué longuement, on a eu deux cours dessus, que on vit dans un monde matériel, naturellement on réfléchit comme des hommes matériels, normalement on devrait tous réfléchir comme des goïms, on ne devrait pas du tout être intéressé par le spirituel. Et quand un juif va passer un Shabbat, il va se sentir que il est hors de ce monde. Quand on va étudier la Torah et que je vais sentir que c'est hors de ce monde, je vais sentir que c'est quelque chose de spirituel. Mais quelque part, ça s'appelle Yetziat Mitzrayim, ça s'appelle être sorti d'Égypte. Donc, on avance un petit peu plus, que pourquoi je dois être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu? Je suis reconnaissant à Kadosh Baruch Hu parce que tout insignifiant comme je suis, il me doit rien, d'accord? Et il me donne la possibilité de quitter mes limites matérielles. Donc je dois être reconnaissant avec Kadosh Baruch Hu. Mais bon, on avance, mais on n'a toujours pas la réponse. Ça veut dire qu'on ne sent toujours pas qu'on doit quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on sent toujours pas quelque chose à Kadosh Baruch Hu? Ça c'est le point qu'on a commencé à expliquer il y a deux semaines. On a dit qu'en vérité, où est le problème?
Marcher, qu'on en voit
c'est
pas
que, voilà. C'est que dans l'exemple que je donnais, tout dans l'exemple que je donnais,
le roi, lui,
voilà. Le roi, on sait où il est.
Là, niveau Nicolas.
Quand le roi, il sait. Donc le roi, on sait où il est. Le clochard, on sait où il est. Et on a des repères.
On connaît la source de la bienveillance.
Donc on sait qui est qui. D'accord. On sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. On connaît. D'accord. Quelle page on est? On n'est pas Saint-Merzaine.
32.
Saint-Merzaine, 32.
Je reprends au début du chapitre. Mais le problème qu'on a avec Akadosh Baruch, enfin, le problème qu'on a,
oui,
c'est nous. D'accord. Nous, on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on n'a pas de repères. Tu me dis, Dieu, il est très gentil avec toi, il t'a donné la possibilité de quitter le matériel, le spirituel, mais je ne sais même pas qui c'est Dieu. Donc comment tu veux que je me sens reconnaissant envers quelque chose que je n'ai jamais vu, que je ne sais pas? Donc le problème, c'est qu'on n'a pas de repères, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où vient Akadosh Baruch Hu. Je ne vois pas où est le palais, je ne vois pas où est le roi. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans le chapitre 48? On va partir dans une direction complètement inattendue. On va parler de la création du monde. On va parler comment la création du monde s'est passée. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ça veut dire... Puisqu'on a expliqué que notre problème, c'est qu'on n'a pas de repères, donc on va essayer de mettre des repères. Donc on va essayer d'expliquer d'où on vient. Et avec ça, ça sera plus facile dans le chapitre 49, pour bien expliquer qu'est-ce qu'on doit à Kadosh Baruch Hu. Donc là, dans le chapitre 48, c'est un chapitre intéressant parce qu'on va toucher des bases de la Kabbalah, mais l'Admor HaZaken, il va les infiltrer dans l'explication d'Hakarat HaTov. D'accord? Parce que l'Admor HaZaken, il n'est pas là juste pour expliquer des notions de Kabbalah. D'ailleurs, même dans certains endroits de ce chapitre, il dira qu'il y a encore beaucoup de détails, mais j'amène que les détails qui nous concernent. C'est ce qui nous concerne. Nous, la seule chose qu'on veut mettre ici, c'est mettre des repères. Poser le décor, voilà. Pour que je comprenne un peu mieux qu'est-ce que je dois à Kadosh Baruch Hu. Pour que je comprenne qu'est-ce que je dois à Kadosh Baruch Hu, il faut que je comprenne qui est à Kadosh Baruch Hu. Alors ça, on ne comprendra pas qui est à Kadosh Baruch Hu. Mais au moins qu'on comprenne, au moins que je comprenne où je suis arrivé. Voilà, moi je suis ici maintenant en 2009, d'où je suis venu, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et ça, peut-être, ça va me permettre de me mettre des repères. Et après, ce sera beaucoup plus facile. Ce sera beaucoup plus facile de comprendre comment... Qui est le roi, et comment moi je suis qu'un clochard, et comment je dois quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Donc, ça sera plus facile une fois qu'on aura posé des repères. Alors, donc Admor HaZaken, il commence, Zéhiné. Kacher, il bonen.
Il y a un chat, pourquoi comment tu le crois, Zéhiné? Tu nous diras après la fin.
Oui.
C'est pas possible.
C'est pas toujours, presque toujours.
On va pas. Il y a quelque chose, c'est pas possible.
Il y a, en général, ça commence...
Yesh, oui, né.
Alors, ça commence pratiquement toujours par un vav.
Dans la Torah ?
Non, vav, non, tu triches là quand tu dis vav, non.
Non, regarde.
Il y a d'abord, il y a veiné, double veiné, ça manque pas les veiné. Ah, j'ai eu du béron.
Ah, voilà, attendez, il y a deux prakim dans le Tania, dans lesquels ça commence pas avec un vav.
Bon.
Voilà, ach, alef,
bet.
Alef, bet. Celui-là, parce que c'est le...
Tu me trompes pas, tu me rappelles bien, tous les autres, c'est avec un vav. Va, veillège, veiné, veiné, veillège.
Non, mais il y a un nombre considérable de veiné.
Il y a que ça.
Il y a des yèges aussi.
Ah, il y a aussi
le... Aïe,
aïe,
aïe. Non, mais vu le si je peux me permettre, le style du personnage qui est écrit, ça peut pas être fortuit.
C'est sûr.
Il va falloir que tu nous proposes quelque chose de la fin.
Il y a quelque chose, c'est sûr.
Non.
Mais tu connais la réponse, quoi.
Bien sûr.
Non.
J'étais même capable de te dire que... On va passer à côté. Veiné. Kacher it bonen amukasameach. Kacher it bonen amaskil. Lorsque on va réfléchir, c'est lui qui va réfléchir. Bigdulat en sof baruch hu, dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc réfléchir, celui qui sait réfléchir. Ça veut dire tout d'abord, on parle à des gens qui savent réfléchir, et à eux on leur demande de réfléchir. D'accord. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on va devoir s'accrocher un petit peu. Hein, soyez honnête. Hein? Parce qu'on a commencé un petit peu la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai étudié trois lignes.
Cause à effet,
voilà. Kacher et Bonan, Maskil, Bigdolet, and Sof, Baruch. Donc on va devoir réfléchir. Quand je dis on va devoir réfléchir, peut-être une petite histoire pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire on doit réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, notre but, c'est de sentir comment on est sorti d'Égypte. On raconte que l'Admor HaZaken avait un de ses élèves, donc qui était transféré depuis de chez les Mitnagdim vers chez lui, qui s'appelait Rabbi Isaac de Homil. Rabbi Isaac de la ville de Homil. Et ce Rabbi Isaac de Homil, on raconte, c'était un élève, bon, Gaon, Baki Beshta, tout ce que vous voulez, et c'était un élève du Admor HaZaken. Et quand il est arrivé chez l'Admor HaZaken, le fils de l'Admor HaZaken, qui plus tard s'appellera l'Admor Emsaï, était encore un petit jeune homme.
Un jeune homme.
Donc bien sûr, les gens, ils rigolaient un peu avec lui.
Bien.
D'accord. Bon. Et lui, Rabbi Isaac de Homil, il aimait bien discuter avec l'Admor HaEmtsaï. Et bon, honnêtement, il est toujours dit que bon, il est très intelligent, etc. Mais bon, je pense qu'on a à peu près la même chose, quoi. C'est pas... Ça va, quoi.
Ça peut se la jouer avec moi.
et c'était vraiment un gaon, hein. Il a écrit des livres, ça c'est un gaon exceptionnel. Et il a raconté qu'à quel moment il a senti qu'il n'était pas sur la même longueur d'onde. C'est une fois quand il était en train de marcher dans la rue, et à un certain moment il passe à côté d'une synagogue. Et dans la synagogue, ils arrivaient à Baruchou. Baruchou. Et là il a vu comment dès que tout le monde a dit Baruchou, donc eux aussi ils ont répondu Baruchou, il a vu comment l'Admour MC, lorsqu'il a répondu Baruchou, il était ailleurs. Et c'est là qu'il a compris, combien de fois Baruch on dit par jour, c'est là qu'il a compris que ils n'étaient pas les mêmes, ils n'étaient pas du tout les mêmes. Et après d'ailleurs, lorsque l'Admour Razaken est Niftar, donc c'est le... Enfin il y a eu plusieurs branches, mais bon, la branche principale était le Admour Emsaï. Rabbi Yazik Domi a suivi l'Admour Emsaï. C'est pas facile de suivre quelqu'un qu'on a connu en tant que jeune homme, etc. Il a suivi, il est devenu son chassid. Pourquoi je dis ça? Pour expliquer que là... Rabbi Yezik Domil par la suite, il a expliqué que c'est là qu'il a compris qu'en vérité, pour vraiment sentir comment on sort d'Égypte, voilà, c'est comme l'Admour Emsaï, que lorsqu'il disait Baruchou, pour lui, il quittait complètement le matériel, il était entièrement dans le spirituel. Alors, nous, on n'est peut-être pas à ce niveau-là, donc on va essayer de mettre des repères. D'accord? Kacher itbonen amaskil bigdulet ensav Baruchou. Lorsqu'on va réfléchir dans la grandeur de Ensav Baruchou. Alors, Ensof Baruchou, c'est un terme qui est ramené un nombre infini de fois dans le Zohar. Dans le Zohar, dans la Kabbalah. Ensof Baruchou. Quand on veut parler de Kadosh Baruchou, de la source, on dit l'infini. Ensof Baruchou. Akadosh Baruchou qui est infini. Qu'est-ce que ça veut dire Ensof? Qu'est-ce que ça veut dire l'infini? Est-ce qu'il démarre pour finir? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'infini? D'où vient ce terme? Et ça, alors après on parle de Ensof, après on parle de Or Ensof. La lumière de l'infini. C'est les termes qui sont très fréquents dans le Zohar. Je suppose que tous ceux qui sont passés par la pensée juive, chez tous les penseurs juifs, Maharal, qui vous voulez, on a toujours ces termes qui reviennent Ensof, Or Ensof. Alors, Admor Hazaken lui dit, c'est quoi ça, Ensof? Infini. Encore une fois, rappelez-vous, on est en train d'essayer de mettre des repères. Donc, on est en train de savoir, essayer de savoir d'où on vient. Alors, il dit, ok. La première chose qu'on connaît, c'est l'infini. C'est quoi l'infini? Ki kishmo kenhu. Ensof, venket et achlitzal. Il y a plusieurs manières de comprendre Or Ensof en hébreu. Or Ensof en hébreu, on peut comprendre que c'est la lumière de l'infini. Ça veut dire la lumière d'une personne qui est infinie. C'est ma première manière de comprendre. Mais on peut comprendre aussi Or Ensof, ça veut dire une lumière qui est infinie. Tu veux? Donc ou bien la lumière de celui qui est infini, ou bien la lumière, une lumière qui est infinie. Alors déjà, nous dit l'Admor Hazaken, on va expliquer, ne vous inquiétez pas, chaque détail, on va tout expliquer. Nous dit l'Admor Hazaken, ici, qu'est-ce que ça veut dire Or Ensof? Qu'est-ce que ça veut dire Ensof, pardon? Ensof, ça veut dire, quand on dit que Dieu, il est infini, quand on dit par exemple Or Ensof, la lumière, donc Ensof, on ne veut pas dire la lumière de quelqu'un qui est infini, non. Or Ensof, c'est-à-dire c'est la lumière qui est infinie. Qu'est-ce que ça change? Alors, vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Ve enketz ve tachlit klal, le or ve chayut, Amit Pachet, Numenut Barer, Birtsuno, Apachut. Ce qu'il y a de très spécial chez Akadosh Baruch Hu, avec ça on va comprendre pourquoi on ne peut pas du tout se comparer à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas comprendre ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu. C'est parce que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de fin et il n'y a pas de but à tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique. Veilu Aïta, Ishtalchelut, Alamot, Meor, Ensof. Bli Timsumim. Si Akadosh Baruch Hu aurait donc tout l'enchaînement des mondes. Ça veut dire tout ce qui a fait que tout ce qui s'est passé en décrescendo pour arriver jusqu'à notre monde. Si ça serait passé d'une manière de Ila Ve'alul, cause à effet, Lo Ya Olam Azanivraklal Kemoshe Wata, le monde d'aujourd'hui n'aurait pas été créé tel qu'il est maintenant. Alors je vais m'arrêter, je vais faire un point, on va expliquer ce qu'il veut dire, parce qu'il y a beaucoup de détails. Ce que veut dire Admor Hazaken ici, c'est la chose suivante. Tout ce qu'on a dans le monde autour de nous se base sur le concept de Ila Ve'alou, cause et effet. Tout ce qui est autour de nous, c'est la base même de notre monde. C'est la base même. On va donner des exemples. Vous prenez un œuf. D'accord? D'où il vient l'œuf? D'accord? Il vient de la poule. D'où elle vient la poule? D'un œuf. Ça c'est un exemple. Vous prenez une pomme. D'où elle vient la pomme? De la graine. D'accord? D'où elle vient la graine? D'une autre pomme. Vous prenez... Voilà, la semaine dernière, on a amené l'exemple des docteurs. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les docteurs quand ils veulent analyser un virus? Il y a un virus, oui. Il y a un virus, on veut analyser les conséquences, comment on peut contrer ce virus. Il y a deux manières. Première méthode, c'est de dire, il y a un virus, donc on va essayer de bloquer le virus, donc d'enfermer le virus. Mais on ne va pas régler le problème. On va dire, on va régler ce problème, mais le problème, on ne l'a pas réglé à la base. C'est quoi les bons, enfin les, ceux qui vont faire vraiment de la recherche, c'est ceux qui vont chercher la cause. Pour dire, nous on a un effet ici, on a un virus qui arrive, il faut comprendre la cause, d'où vient la cause. Et une fois qu'on comprend la cause, c'est là qu'on va savoir comment on peut traiter l'effet. Alors c'est une des méthodes, il y a peut-être certainement plusieurs méthodes. Mais le monde qui est autour de nous, tout ce qui est autour de nous, est créé dans un système de Ila Vealou, de cause à effet. Il n'y a pas une chose dans le monde qui ne suit pas ce système. Et s'il n'y avait pas ce système-là, les médecins n'auraient pas de travail, beaucoup n'auraient pas de travail. Parce que c'est ça, on est en train d'analyser Ila Vealou, la cause et l'effet. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que chaque chose qu'il y a dans le monde, qu'est-ce que j'entends par cause à effet? Là on va comprendre tout ce qu'il veut dire. Chaque chose qu'il y a dans le monde a un but. D'accord? Par exemple, je donne l'exemple d'une pomme. La pomme a un but. C'est quoi le but de la pomme? Tout d'abord, je vais la manger. Son but, c'est que ça serait que je prenne une graine, la graine de la pomme, et que je vais planter avec. Chaque chose qu'il y a dans le monde a un but. Ce que j'entends par un but, ça veut dire qu'il a une fin. Il a une utilité. Il doit arriver à quelque chose. Il a un but. Donc, qui dit but, dit que il y a avant qu'il a accompli son but, et après qu'il a accompli son but. Vous suivez? D'accord? On avait amené l'exemple suivant. Par exemple, on prend en ce moment, on parle de Yosef HaTzadik. Alors, Youssef HaTzadik, on a vu quand on voit cette histoire, quand on voit son histoire, sur la paracha de la semaine et la paracha de cette semaine, on voit que Youssef HaTzadik, bon, c'était un petit jeune homme qui était chez ses parents, après il a été vendu en tant qu'esclave, après d'esclave, il est passé, il était vendu en tant qu'esclave, après d'esclave, donc il était chez Potiphar, après de chez Potiphar, il est parti en prison, après
d'abord il est devenu patron.
Il est devenu
patron chez Potiphar d'abord.
Oui d'accord, mais il était toujours esclave.
Patron quand même.
Patron esclave.
Moshe la récolte béto. Il n'y a que la femme qui n'avait pas droit, tout le reste c'était le patron.
Bon, mais il était quand même esclave.
Potiphar, c'était un
d'accord.
prince.
Potiphar, c'était un prince.
Donc quand même, il est monté.
Après qu'est-ce qu'il est devenu?
Après,
il est tombé, après il était en prison, mais après en prison c'est devenu un boss, donc si vous voulez, donc c'est devenu un prisonnier boss.
Patron d'accord. des prisons.
Patron des prisons.
Ouais.
D'accord. Après, il est venu chez Paro. Donc il y a beaucoup oui. de... Et après, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Au bout du compte, il est devenu le vice-roi et il a sauvé toute l'humanité. Il a fait un plan, etc. Comment conserver la récolte. Il a sauvé toute l'humanité. Bon. Alors imaginez-vous maintenant, si cette histoire serait arrivée en 2009. Voilà, imaginez-vous qu'on avait un Youssef, il y a la famine qui va taper sur le monde entier, et vous avez un Youssef qui vous sauve l'humanité entière. Qu'est-ce qu'on aurait dit dans les journaux? Qu'est-ce qu'aurait titré les journaux? D'accord. Qu'est-ce qu'aurait dit les journaux? Les journaux auraient dit, on a un prisonnier, quelqu'un qui est sorti de prison, qui a sauvé l'humanité. Mais les journalistes, ils vous auraient pas dit ce qu'il y avait avant le prisonnier, qu'avant qu'il était prisonnier, il était chez Potiphar, il était esclave, il était chez son père. Il n'aurait pas dit ça. Pourquoi il n'aurait pas dit? Parce que nous on remonte en général à une étape. Et vous voyez tout de suite que nous, quand on prend du recul, on voit toute l'histoire, on voit qu'en vérité, il y a un plan qui était voulu par Akadosh Baruch Hu ici. Il était d'abord chez son père, après il devait atterrir en Égypte, il devait passer par certaines étapes, et après ses frères devaient revenir. Donc il y a un plan ici. Et dans ce plan, d'accord? Ça n'a pas arrêté les causes et les effets. Il y avait des causes et des effets sur chaque étape. Ça n'a pas arrêté. Et c'est comme ça que le monde entier est créé. Chaque chose qu'il y a dans le monde, on avait eu une fois un cours, une fois dans le chapitre 39, quand on avait expliqué que tout ce qu'il y a dans notre monde est dans un système de causes et effets. Alors pourquoi on explique tout ça ici? Pour dire que qui dit qu'il y a un système de causes et effets dit que le jour où la cause a obtenu son effet, elle ne sert à plus à rien. Par exemple, voilà, du bois, à quoi ça sert? Du bois, ça va servir peut-être à me chauffer, ça va servir à me faire du papier, ça va servir... Donc le papier, d'où il vient? Il vient du bois. Mais ça veut dire que le bois avait un but. Et une fois que le bois a accompli son but, il s'est brûlé ou on a fait du papier, il a accompli son but, après c'est fini.
Après on fait d'accord? recycle.
Après, d'accord. Mais
donc
ça veut dire...
On peut
oui.
faire un but, encore un but.
C'est certes. Donc on peut faire des ilav et aloul sans fin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque étape, la manière comme Akadosh Baruch Hu a créé les choses dans le monde, c'est que chaque chose a un but. Même si on ne le voit pas toujours, le but. Mais chaque chose a une raison. Le jour où cette raison se finit, il n'y a plus de raison d'exister. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le système du monde. Pourquoi c'est important de dire qu'Akadosh Baruch Hu est Ensof? Akadosh Baruch Hu est infini. Akadosh Baruch Hu est une lumière qui est infinie, qui n'a pas de fin. Ça veut dire qu'on a dit, pourquoi il est infini? Il n'a pas de début aussi. Pourquoi on dit qu'il est infini? C'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas du tout dans le même système que le nôtre. On va expliquer un peu mieux ce concept-là. Que nous, dans notre système, chaque chose a un but. C'est pour ça qu'on se pose la question, on dit, mais Dieu, il a créé un monde. Ok, donc il a un but. Donc, ok, Dieu, c'est la cause et nous, c'est l'effet. Et après? Alors après, on va faire les Torah et Midot. Et après? On est bloqué. Pourquoi on est bloqué? Parce que pour nous, si la cause doit avoir un effet, le jour où l'effet est accompli, eh ben, il faut autre chose. Allez, après. Ce qu'on comprend pas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne tombe pas dans le même système que nous. Akadosh Baruch Hu n'a pas de but, n'a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fin. Alors ça, c'est une notion qui est très compliquée. On va développer par la suite parce que c'est une grande marloquette entre le Ramak et le Arizal. On va expliquer dans la suite, vous allez voir que c'est pas simple du tout ce que le Morazakan dit ici. Le Morazakan dit ici que, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu n'a pas de but. Rappelez, on avait dit Rav Tartonim.
Ouais.
Bon, on va y arriver.
La cause a un lien direct avec les faits, chez lui. Alors que nous, il n'a aucun lien avec la cachette.
Excuse-moi, j'ai pas.
Dans les choses de la vie, les causes et les faits sont liées, ont un lien.
Bien, oui, oui.
Que nous, par rapport à Dieu, on ne peut pas dire qu'on a un lien comme ça, une évidence.
Très bonne question. Mais c'est pour ça qu'il a amené ici la notion de Ishtal Shelut. Ishtal Shelut, c'est un enchaînement. Un enchaînement, ça veut dire que pour arriver de 0 à 1, d'accord, on est passé par 0,001, etc. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement. Donc c'est vrai que peut-être que tu as raison que si tu prends le 0 et le 1, il n'y a pas de rapport, mais il y a eu une réaction en chaîne. Il y a eu des étapes au milieu. Bon. Alors là, ce qu'il veut nous expliquer là de Morazaken, c'est que la manière comme Akadosh Baruch Hu nous a créé, le système comme Akadosh Baruch Hu nous a créé, c'est pas un système de cause à effet. Ça veut dire que jamais, on va expliquer parce que c'est pas simple, c'est-à-dire que jamais, on doit se considérer comme si qu'on ait les effets d'Akadosh Baruch Hu.
Pourtant, même, Dieu... même de la Torah, on dit mitzvah goreret.
Très bien.
Donc on a l'impression que...
Ça, c'est en bas, en bas.
Ouais, mais même dans la Torah, elle était pas que en bas. Mais
oui, c'est...
On dit que quand tu fais une mitzvah, ça entraîne une autre chose.
Ah, mais c'est sûr que le système du monde est comme ça. Mais là, ce qu'on va expliquer, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a créé, jamais, à aucun moment, on peut se considérer comme étant les effets d'Akadosh Baruch Hu. Et que Dieu, c'était la cause. Alors, vous allez voir pourquoi ça va changer beaucoup de choses. On va lire dans les mots. Je reprends un Veilu Haïta. Vous avez Veilu Haïta ?
Quel ?
On va lire un petit peu. Et comme on dit, Milot Markimot. Les mots rendent intelligents.
Troisième grande ligne, deuxième mot.
Troisième grande ligne, deuxième mot ?
Quel ?
C'est quoi le chat de grande ligne ?
C'est après la...
Après la, le revolver.
Après le revolver. Alors, il dit comme ça.
Comme ça qu'ils disent, hein, Magma.
Je sais pas, c'est nous les chemins, c'est pas revolver.
Parce qu'ils tirent dessus tout le temps, la gloire.
Après le revolver, non, il y a les grandes lignes, les petites lignes, les moyennes lignes.
Ah, comme ça, c'est comme ça qu'on revolver toujours.
Vous savez que c'est une... Le Rav Stenzel, il dit dans son livre, le Madrich le Talmud,
ouais.
Il dit que c'est une Kabbalah qu'ils ont eu de faire, vous avez remarqué, toujours en haut, 4 lignes, 4 oui. Lignes larges, toujours.
Toujours.
4.
Même Rachid, toujours comme ça.
Toujours, 4, toujours. Alors on remarquerait dans la Gemara, il y a toujours 4 lignes larges et après ça va en rafraîchissant. Bon après des fois en bas c'est bon.
Ouais.
Après,
c'est, en haut c'est toujours 4.
En haut c'est toujours 4. Toujours. Et il dit qu'il y a une raison qu'on ne le connaît pas, mais apparemment les imprimeurs quand ils ont fait ça, on leur a dit de faire comme ça. Quoi. C'est pas.
Ouais, c'est
ouais, c'est dégouille, bien sûr. Ouais, bon. Dégouille.
Rouge ou blanc ?
Du blanc. Il y a des croissants et tout, hein, c'est un peu.
Ça marche très bien le blanc avec les croissants.
Ouais. Ça marche très bien.
Non, dans le cas, ça veut dire... c'est juste pour faire
ça. Ah, c'est le... C'est comme le hamburger avec le Coca Light.
Ouais, c'est ça. Et le chat, c'est bon, ben, on fait ce qu'on peut. Hein.
Bon, alors, cause à effet. Hein. Cause à effet, si. Si on va manger, on va grossir.
Non, mais ça, c'est pas cause à effet. Ça, c'est action-réaction.
Action-réaction.
C'est différent déjà.
Alors on va lire dans les mots. Ve'ilu. Ve'ilu haïta ishtel shelut. Je vais dans les mots. Ve'ilu haïta ishtel shelut a olamot me'or ensof a ochub l'itim sumim. Si l'enchaînement des mondes, donc ça veut dire que la création du monde, pour reprendre ce que je t'ai dit Lionel, depuis or ensof a ba'ochub, donc depuis la lumière de Dieu, donc de la lumière infinie, blitim sumim, rak keseder a madrigot, fu madrigal a madriga. Si, akadosh ba'ochub, si on se fait imaginer, que Akadosh Baruch Hu, directement, il nous a créé. C'est-à-dire, directement, Akadosh Baruch Hu, c'est une cause, et cette cause a donné naissance à un effet. Le problème qu'on a, et c'est ce que j'ai touché à Sayonel tout à l'heure, c'est que l'effet doit toujours avoir des caractéristiques communes avec la cause. Il y a un principe. Obligatoire. L'effet doit toujours avoir, je n'ai pas dit toutes, mais il doit toujours avoir des caractéristiques communes avec la cause. Obligatoire. Donc, si tu me dis que Akadosh Baruch Hu, c'est la cause, et nous sommes l'effet, et donc, il n'y a pas eu de coupure au milieu, c'est-à-dire qu'il y a eu un système de cause à effet, certes, ça a pris beaucoup de niveaux, mais c'est cause à effet. C'est-à-dire que si tu remontes, eh ben, tu arriveras à Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Eh bien, qu'est-ce que nous dit la Morazakan dans ce cas-là ? Lo aya aola mazen nivra klal kemoshe wata. Le monde tel qu'il est aujourd'hui n'aurait pas pu exister. Pourquoi ? Et là, il va rentrer dans une explication pour dire quelle est la différence entre notre monde et Kadosh Baruch Hu. pourquoi on est obligé de passer par une coupure. Donc encore une fois, rappelez-vous, on est en train de mettre ici des repères. Il dit Kemosheu atav prinat gvul vetachrit. Le monde qu'on a tel qu'il est aujourd'hui est un monde qui est entièrement limité et qui a un but. Où on voit ça? Par exemple, sans trop rentrer dans les détails, mais on voit ce que les Chachamim nous disent dans la Gemara Chagiga. Ils disent que Me'aretz la rakia ma'alar tafkushana. Ils disent que de la terre au ciel, il y a le temps de marcher de 500 ans. Alors c'est intéressant parce que Maïmonide il a fait un calcul, d'accord? Et Maïmonide il a fait un calcul dans son premier chapitre de Chodis de la Torah. Il fait un calcul de 500 ans, combien de temps on marche en 500 ans, etc. Et il arrive à, je me rappelle plus la distance exacte, mais il arrive à la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Je crois qu'il dit 180 000 km, je crois.
Non, je rigole ou quoi?
Millions. Bah, en tout cas, il le dit. Il dit un chiffre. Je ne me rappelle plus. Hein, je sais pas.
Il fait 3,6 km/h.
Je me rappelle que le...
Ils arrivent pas, ils mettent des années-lumière pour aller à des... dans différentes planètes.
Alors il amène la distance, et là-bas dans le commentaire.
Le soleil, à mon avis, c'est pour autre chose, parce qu'il dit le ciel. Le ciel, pourquoi le soleil?
Le soleil, dit là-bas. Et là-bas, le commentaire du Rav Kapar dessus là-bas, il explique, il dit que... Bon, je sais pas. La marge de 500 ans.
C'est rien.
Ils envoient des sondes.
Combien de kilomètres est-ce aujourd'hui?
Si tu marches 500 ans,
ici au soleil,
oui.
Sans dormir.
Mais ils envoient des sondes qui font 3000... Ils vont à la vitesse de la lumière, ils mettent des années-lumière.
Je me rappelle que le commentaire là-bas, il disait que... Honnêtement, je ne sais pas...
Non, il n'y avait pas des lumières pour aller au soleil, sinon on voudrait dire que c'est... Non.
Soleil, 300 000 km.
Non, mais 300 000... Non.
C'est la distance. Ah, c'est la vitesse de la lumière, oui.
3 divisions 8 mètres par seconde, c'est la vitesse de la lumière.
Voilà, donc c'est la vitesse de la lumière. Donc c'est le temps qu'un rayon de soleil prend pour partir depuis là-bas pour arriver jusqu'ici. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a 300 000 km.
Combien de temps il met?
Non.
Non, c'est la vitesse.
Entre la Terre et la Lune.
Bon, je verrai après, Vlinéder. Je me rappelle qu'en tout cas...
Mais pour aller jusqu'à Mars, il met 5 ans.
La vitesse de la lumière.
300 000 km par seconde.
3 divisions 8 mètres par seconde.
Combien de temps ça prend depuis que le rayon de soleil, il part depuis le soleil pour arriver jusqu'ici?
Beaucoup.
Combien de temps?
Mais bien sûr, vitesse de lumière, donc 3 divisions 8.
Non.
Vitesse de lumière, c'est 3 divisions 8.
On parlait de marcher.
Bon, allez.
Marcher, c'est bien moins.
Comment ça, bien moins?
Ouais, je regardais. Mais en tout cas, je me rappelle que le Rav Kapar, là-bas, il disait que ça correspond à peu près à ce qu'ils disent aujourd'hui. Maintenant, bon, je sais pas. En réalité, j'ai pas fait ça à l'école, donc...
Oui, qui a rapport avec le ciel et le soleil.
Alors, en tout cas... Bon, il expliquait, là-bas, il avait ses sources. En tout cas, pourquoi la Morazaka nous amène ça ici? Pour nous dire que notre monde, même nous quand on s'imagine, voilà, l'homme quand il s'imagine ce qui est infini, l'infini, qu'est-ce qu'il s'imagine? Il s'imagine, mais arrête la rakia. Il s'imagine de la terre jusqu'au ciel. Non, de la terre jusqu'au ciel, on dit la Morazaka. C'est là, tu calcules.
Je sais pas ce qu'il fait comme calcul, mais bon, il va falloir que je le fasse moi.
J'ai 157.
Je pense que j'ai 157, mais bon.
Dommage, j'ai pas mon rambam ici, chez moi.
Allons-y.
Connaître scientifique, attends.
Alors,
j'ai 15 768 000
km
en marchant.
Quoi, en plus c'était une belle édition.
C'est pas le livre qui est sorti sur le Midrash Rama.
Non.
Bon, je vous regarde ça pour la semaine prochaine, bien
évidemment. Pas que des sujets comme ça, c'est plein d'autres sujets.
En tout cas, mes monnaies, ils ont une distance. Je me rappelle que c'est... Enfin, honnêtement, alors, je ne suis pas dedans, quoi. Donc, je me rappelle que dans le premier chapitre, vous pouvez voir dans le premier chapitre. Bien, je regarderai pour la semaine prochaine.
Ouais, moi aussi, j'ai entendu quelqu'un, mais je ne sais plus des chiffres, mais je sais que ça tombait...
Non, c'est-à-dire, comme je ne connais pas ce qu'on dit dans la science, donc je...
Ça fait 157
000. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'il dit, l'Admor HaZaken? Alors, on revient à notre Admor HaZaken. D'accord. L'Admor HaZaken, il dit comme ça. Il dit que, même lorsqu'un homme aujourd'hui... Allez, messieurs. Lorsqu'on s'imagine aujourd'hui, lorsqu'on veut s'imaginer l'infini, qu'est-ce qu'on va s'imaginer? On va s'imaginer le ciel. Bon, Mazakin te dit, la Gemara te dit que de la terre jusqu'au ciel, il y a une marge de 500 ans. Bon, c'est quoi ces 500 ans? On va expliquer tout de suite. Vechen, Ovi kol rakia verakia. De la même manière, là-bas la Gemara a dit, de la même manière, l'épaisseur de chaque ciel, puisqu'il y a 7 cieux. L'épaisseur de chaque ciel, c'est une épaisseur de 500 km. De la marge de 500 ans. Bon. Jusqu'ici, on peut dire que c'est gâchmi, c'est matériel. Bon, Zadal s'est dit que c'est évident que 500 ans, a priori, peut-être au début, ça peut être matériel, mais à la fin, c'est pas matériel. Pourquoi? Parce que la Gemara, là-bas, dans Chagiga, après, elle se met à parler des pieds des anges. Et elle dit qu'entre les pieds des anges, il y a aussi 500 ans de marche. Bon, les pieds des anges, on sait très bien que c'est pas matériel. Donc, c'est évident que C'est évident que quand la Gemara Labelle parle d'une marche de 500 ans, elle ne parle pas forcément d'une marche physique d'un homme. Mais ça ne change pas que c'est quand même limité. Ça n'enlève en rien, même si ce n'est pas une marche limitée avec les physiques comme on connaît. Mais quoi qu'il en soit, c'est limité. Il y a des limites. Il y a un compte.
Aussi grand sous-tel, c'est limité.
C'est 500, c'est pas 499, c'est pas 501, c'est limité. D'accord ? Va filou à l'amaba ! Et même le Olamaba, le Gan Eden et Elion. Parce que vous en avez dit que dans le Gan Eden, il y a le Gan Eden d'en bas, le Gan Eden d'en haut. C'est-à-dire le Gan Eden et le Tzadiki, le top. Mador Neshamot et Tzadikim Agdolim, un endroit où se trouvent les grands Tzadikim. Va Neshamot Atman, et même les Neshamot. Va Netzach le Malachim, et même les Malachim. Puisque les Neshamot sont plus fortes que les Malachim. Tout ça, M. Bifrinat Gvul Vetachlit. Tout est limité, même le Gan Eden c'est limité. Pourquoi c'est limité ? Quand on dit que c'est limité, ça veut pas dire que c'est limité avec une limite comme nous on connaît, avec 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y a une limite. Par exemple, si en haut, Gan Eden, il y a une compréhension, eh ben chaque compréhension aura sa limite. Il y a un point où on peut pas arriver. Et c'est pour ça qu'on a des états d'histoire dans lesquels Akadosh Baruch Hu dit, jusqu'ici. Après, vous pouvez pas comprendre. Parce qu'il y a une limite. Maintenant, après, la limite, elle peut être très très haut, mais il y a toujours une limite. Bon. Et alors? Velachen. Donnez les mots. Qui est-ce que vous, la sagatan, be'orensov Baruch Hu, Améir Aleem Beitlapshut Chabat Roulem. Que même les Malachim, par exemple, qu'on va dire qu'ils n'ont pas de forme physique, mais quelle limite ils auront? Ils auront une limite dans la forme de réflexion. Chabat Chochma Binadat, d'accord? Donc ils auront une limite dans jusqu'à combien ils peuvent réfléchir. Et c'est ça qui va faire la différence entre les Malachim, et tout le monde sera bridé à un certain niveau. Velachen, Yeshkvul Lanaatan. Je vais faire encore quelques lignes. C'est pour ça que les Malachim, le Gan Eden, les Neshamot, même si on dit que à quoi ils sont occupés les Neshamot quand ils sont galénés, qu'est-ce qu'elles font? C'est-à-dire qu'ils ils sont là en train de profiter, chaise longue, d'accord, du rayonnement de la Shrina. D'accord? Mais il y a une limite, tout a une limite. Et la chaise longue, c'est pas ici qu'il faut la faire, non. Oh.
Un rayon UV particulier.
C'est écrit Mizi Vashrina. Qui en yecholim les kabel anav et ta'anouk biprinat en sof mamash. Ça veut dire que les plus grands tzadikim, les plus grands gagnés, tout ce que tu veux, il y aura toujours une limite. Ils ne pourront jamais recevoir le brut. Ils ne pourront jamais recevoir un Kadosh Baruch Hu à l'état brut. Personne ne pourra recevoir un Kadosh Baruch Hu à l'état brut. Non. Alors, ce qui veut nous dire dans le Mora Zaken ici, c'est quoi? C'est qu'on est obligé de dire, puisqu'on dit qu'il y a un système de... Puisque nous on sait que notre monde est limité, que tout ce qu'on connaît c'est limité, et même le Gan Eden qu'on connaîtra, et tout ce que tu veux, ce sera toujours limité. Parce que, même si la limite n'est pas une limite comme nous on connaît, mais quelque part c'est limité, on est d'accord? Donc qui dit limité, dit que ça ne peut pas être créé directement de Ein Sof Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si tu me dis que Ein Sof Baruch Hu, lui n'a pas de limite, n'a pas de but, donc rappelez-vous ce qu'on a expliqué, la cause doit avoir au moins une partie des caractéristiques communes avec la cause. La cause doit avoir des caractéristiques communes avec l'effet. Ça veut dire que, même si c'est un niveau différent, c'est peut-être plus fort, moins fort, etc., mais il faut que ce soit du même type. Vous savez ce qu'on donne comme exemple? On dit que de la même manière, pour expliquer c'est quoi le concept de Hila ve'Aloul. Quand, par exemple, on dit que pour nourrir un corps, qu'est-ce qu'il faut voir? Pour nourrir un animal, qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger? Il faut lui donner à manger, donc, je sais pas, de la viande, par exemple. Donc, la viande va être la cause de l'animal. La viande, ça va être la cause, et l'effet, ça va être que l'animal va prendre des forces. Très bien. Est-ce que maintenant, je peux amener un professeur à côté de l'animal qui va se mettre à lui raconter un discours? Est-ce que ça va nourrir l'animal? Et voilà, c'est un professeur matériel, il va lui parler. Non, ça va pas le nourrir l'animal. Pourquoi ça va pas nourrir l'animal? Puisque là, on a besoin d'arriver à un certain effet particulier, un effet que l'animal va être nourri, et si la cause n'est pas de la même catégorie que l'effet, ça marchera pas. Ça peut pas marcher. Après, il y aura peut-être des nuances. Par exemple, quand on va manger, on va peut-être donner à manger de la viande ou des herbes, parce que tu vois, pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit les mêmes caractéristiques. Bien vu. Alors, bon, il nous a prévenu, Admor Hazaken, au début du chapitre, que Kasher Yaski, la masquille. D'accord, que c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Admor Hazaken? Admor Hazaken nous dit la chose suivante. Il nous dit, puisque Akadosh Baruch Hu, à la base, il n'a pas de but. Il n'y a pas de but, ça veut dire que ce n'est pas un système de cause à effet. Si Akadosh Baruch Hu nous avait créé, d'accord, d'une manière de cause à effet, et bien le monde tel qu'il devrait être créé, il ne pourrait pas être créé avec les limites, d'accord, avec les limites du Gvoul, avec les limites, donc comme on a toutes les limites qu'on a dit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'est Shakadosh Baruch Hu. Alors je sais que c'est pas clair, c'est pour ça que la demande Zaken y continue. D'accord? Vous avez une question?
J'attends.
Très bien.
C'est difficile, j'attends de voir.
Il semble pas avoir de lien.
Entre eux, Akadosh Baruch Hu et nous. C'est qu'on n'arrive pas. C'est
qu'à Kadosh Baruch Hu. Les exemples qui sont donnés sont des exemples de type matériel.
Oui.
Peut-être qu'il y a effectivement, mais comme dit, comme dit monsieur.
Dieu nous a fait, très bien, Dieu nous a fait à son image. La question qu'on se pose ici, c'est quelle est la méthode qu'Akadosh Baruch Hu a utilisée pour nous créer? Rappelez-vous, on cherche à mettre des repères. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a utilisé la même méthode, d'accord, comment nous on procrée? Parce que quand nous on procrée, c'est pareil, c'est le même système, c'est cause à effet. Mm-hmm. D'accord? Ça veut dire que le bébé aura forcément un rapport avec la mère. D'accord? Un homme ne doit pas donner naissance à un chien. On est bien d'accord? Parce que ça doit avoir un rapport, c'est la même chose, c'est les mêmes caractéristiques. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'humain, qui est une cause, enfin qui est un effet, pardon, est-ce que l'humain a des caractéristiques communes avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on va dire que la méthode comment Akadosh Baruch Hu nous a créé, c'est la même manière que comment nous on procrée? Donc c'est le système, le système du monde, c'est un système de cause à effet. C'est la question qu'on est en train de se poser ici. L'Admor HaZaken est en train de nous répondre que non. Pourquoi? Parce qu'il dit le bébé qui est sorti, c'est un bébé qui est entièrement limité, qui est entièrement bridé, qui a des limites. Et même les plus grands niveaux que tu peux t'imaginer, ils sont tous bridés. D'accord? Alors que la mère de ce bébé, qui est Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas du tout bridée. Elle ne sait pas ce que ça veut dire bridée. Alors, on va expliquer un peu mieux ce que ça veut dire. C'est pourquoi brider, pas brider, et en quoi quelque chose de, pourquoi quelque chose de brisé ne peut pas donner naissance, quelque chose de débrisé ne peut pas donner naissance à quelque chose de brisé. Alors il va expliquer tout de suite la noirzaque, c'est ça ce qui nous dérange.
Mais non, c'est un principe en mathématiques connu, quoi. Oui. Hein. C'est connu, le cas d'équivalence, c'est comme ça.
Alors vous allez voir que le Ramak n'est pas d'accord avec ça.
Non, c'est connu. Ah. Quelque chose qui est, la Dagmara le dit aussi, Yosemitame, Tamé, Yosemitame,
d'accord.
On ne peut pas dire quelque chose qui est Tamé, va donner du Tamé, du Tavor, le contraire. A priori, on garde les mêmes.
Voilà. Donc ça veut dire que
avec des nuances, mais on
donc ça veut dire que si nous on est si, voilà donc la chose que, il y aura peut-être des nuances, mais ça veut dire que si nous, est,
rester,
si nous on est limité, si nous dans notre système on est, quand je dis on est limité, ça veut dire que même si c'est des limites très larges, mais il y a toujours une limite, ouais. Ben Akadosh Baruch Hu quelque part doit être aussi limité.
Si on reprend l'histoire entre guillemets, la partie limitée de l'homme, elle a été créée à partir de choses limitées, qui est le gouffre. Dieu, il a pris, il a ramassé, il a pris. Comme ça, il nous a montré, il nous a dit. Il a donc fait quelque chose de limité à partir de limité. Ça, c'est une partie de notre essence de Dieu.
Attendez,
il y en a une autre, il part, pas trahim. Là, c'est un truc, on ne sait pas d'où ça vient.
Très bien. Non, je ne parle pas de la Neshama. Je parle déjà de
Le gouffre. Il a pris à partir de quelque chose qu'il a créé de limité, Dieu.
Très bien.
Donc, c'est pas de lui-même que vient le corps.
Voilà.
C'est bien d'une de ses créations. Ou d'une de ces manifestations qu'il a choisi.
La question
faire...
qu'on se pose ici, c'est une grande question dans le Zohar, ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est un grand débat dans le Zohar. Le grand débat, c'est un grand marloquet entre le Ramak, quand, entre le Ramak et le Harizal. Le Ramak, c'est Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, c'est le maître du Harizal. Rabbi Moshe Cordovero, il a écrit un livre qui s'appelle Pardes Rimonim. Dans ce livre qui s'appelle Pardes Rimonim, on peut dire que c'est lui en vérité la base du Harizal. Il a aussi à Tzfat, oui.
Ouais, ça, ouais.
Il a conceptualisé, d'accord, il a organisé et conceptualisé toute la Kabbalah. C'est-à-dire jusqu'à présent, c'était des idées par-ci, par-là dans le Zohar, réparties sur les... Il a fait une structure, il a vraiment structuré. Donc le premier livre qui a structuré la Kabbalah, c'est Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, un de ses plus grands élèves, c'est le Harizal. D'ailleurs, quand le Harizal, c'était en l'année 1572, lorsque Rabbi Moshe Cordovero est niftar, le Harizal, dans le Hespèd qu'il a fait, dans l'oraison funèbre, le Harizal a dit la chose suivante. Il a expliqué le verset qui dit « Qui est Be'adam, chet mishpat mavet ve'umat ». Le verset dit comme ça. Il dit « Lorsqu'un homme aura chet mishpat mavet », ça veut dire qu'on va décréter qu'il devra mourir, « ve'umat », on devra le mettre à mort, « ve'talita oto al etz », on devra le pendre sur un arbre, sur l'arbre. Alors le Harizal a expliqué comme ça. Il a expliqué comment on explique ce verset d'après la Kabbalah. Très beau. Il dit comme ça. Il dit « Qui est Be'ish ». Si une fois ça va arriver et qu'un homme, il y a un homme qui va décéder, et chet mishpat mavet, chet en hébreu ça veut dire une faute, mais chet en hébreu ça veut dire aussi un manquement. Comment il explique le Harizal? Il dit, ki yebeish, lorsqu'il y aura un cas que chez un homme, chet mishpat mavet, on ne comprend pas pourquoi il est mort.
Ah, une absence de jugement de mort.
Une absence de jugement, on ne comprend pas pourquoi il est mort.
Comment ça se fait
qu'il est mort? Pourquoi le Ramak est niftar en d'autres termes? Qu'est-ce qu'il dit? Vetali taoto al et. tu dépendras ça, tu diras que c'est à cause de Etz Hadat. L'arbre de la connaissance. Ça veut dire que c'est à cause de la première, c'est à cause de la première faute. Pour montrer à quel point le Harizal respectait le Ramak. Le Harizal, pendant toute la vie du Ramak, n'a jamais enseigné. Il était constamment étudié chez son maître. Après que le Ramak est Niftar, en 1572, le Harizal a vécu seulement 2 ans. Et c'est pendant ces 2 années qu'il a tout enseigné tout ce qu'on connaît du Harizal. En 2 ans. On n'arrive même pas à s'imaginer. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est que ce que son élève, ses élèves, Rabir, donc ce que ses élèves, ils ont réussi à consigner. D'accord ? Seulement ce que ses élèves, mais ça vient, imaginez-vous, en 2 ans. En 2 ans, ce qu'il a pu faire le Harizal. Alors, en général, bien sûr, bien entendu, le Harizal est toujours d'accord avec son maître, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Une des choses sur lesquelles il n'est pas d'accord, c'est le point qu'on va expliquer. C'est le point qu'on a commencé à expliquer. Qui c'est qui a expliqué? Il est au fond. Au fond. Ouais. Qui c'est qui a commenté Rabbi Moshe Cordovero? C'est Rabbi Menachem Azaria Mipano. Rama Mipano. Encore Rama Mipano, il a écrit, bon, quand j'ai lu un peu, j'ai fait une petite enquête. Il a écrit donc plusieurs livres. Un des livres qu'il a écrit, c'est Asarama Marot sur le Pardes Rimoni. Donc sur le livre du Ramak. Il a écrit un livre qui s'appelle, on a dit Asaram Amarot. Et regardez ce qu'il dit le Rama Mipano, pour expliquer ce que le Rama qui pense. Il dit comme ça, je vais vous lire dans les mots, avec ça vous allez comprendre où ils vont venir à Nourazakan ici. Il dit Chok Aalul Leit Karev Leilato. Il dit c'est une loi qui fait que l'effet doit toujours ressembler à la cause. Mikol Makom, mais néanmoins,
toutefois,
Yechuyav Evdel Atsum Verak.
Il dit néanmoins,
il peut y avoir un écart énorme,
un gap géant,
entre la première cause et le dernier effet. Parce que rappelez-vous, ça s'est passé en plusieurs étapes. Donc qu'est-ce qu'il dit le Ramak? Donc le Ramak, en vérité, il avait écrit, le Rami Moshe Cordovero, il avait expliqué ça dans un livre qui s'appelle Elima. Il n'a pas dit son par des homonymes. Et ça a été expliqué par Rabbi Menachem Azaria Mipano. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit que même si il y a un gap extraordinaire entre nous et Akadosh Baruch Hu, certes, le gap est énorme, et c'est un gap qui est très grand, mais il dit, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu nous a quand même créé dans un système de cause à effet. Donc c'est pas grave, il y a quand même un système de cause à effet, et c'est pas grave, même si l'effet final qui est nous, on n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu, ben il y a un grand gap, c'est tout. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu nous a créé dans un système de cause à effet.
Tu peux avoir effectivement des choses qui sont pas visibles, mais qui au fond sont proches.
Très bien. Donc explique la question.
Par exemple, tu as les yeux bleus et
ouais.
Tu fais un enfant avec des yeux noirs.
Oui.
Là, au fond de lui.
Des gènes.
Un gène.
Très bien. Bleu. Donc ça veut dire qu'encore une fois, comment ça peut arriver ça? C'est parce qu'on est toujours dans la même catégorie, dans la race humaine, donc dans les caractéristiques. Donc ça peut se transmettre. D'accord.
J'ai compris.
Quand on réfléchit, il nous a dit Chok Aalu Leit Karev Leilato. C'est une loi. Apparemment, on l'a dit aussi cette loi-là en
plus. Ouais,
d'accord. Que Chok Aalu Leit Karev Leilato. C'est exact ces mots. Je les ai recopiés. C'est que l'effet doit toujours ressembler à la cause. Seulement, néanmoins, ce qu'il pense le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il pense que même si l'effet doit ressembler à la cause, c'est possible qu'on a un grand gap entre les deux. Maintenant, le Harizal...
Sous-entendu qu'on ne voit plus le rapport entre les causes
voilà.
Et les
effets. Sous-entendu, peut-être que nous, on ne voit plus le rapport qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu.
Mais il existe.
D'accord ? Mais il y en a un. Il y a un rapport qui existe. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a créé dans un système de cause à effet. C'est ce qu'il dit Moshe Cordovero. Le Harizal, c'est un des rares points sur lesquels il n'est pas d'accord avec son maître. Et d'ailleurs, tous les grands maîtres de pensée juive pensent comme le Harizal aujourd'hui. Personne ne suit le Ramak. D'ailleurs, en Chassidut, il y a même un terme qui dit que le Ramak ne connaissait pas le secret du Tzimtzoum. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a personne qui suit le Ramak. Bien que le Ramak est le maître du Harizal. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Le Harizal, il dit non. Le Harizal, il dit, c'est pas possible. Il dit, si, donc il amène le principe. Il arrive. Qu'est-ce qu'il dit le...
Je croirais pas que ça va le dégarder. Hein.
C'est en Hanouka, c'est pour préparer demain.
Là-bas, c'est...
Pour préparer l'allumage, ouais.
Au 13e, c'est
ouais,
demain.
C'est la file HK.
De l'eau de Betraman.
Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Le Harizal était la chose suivante. Le Harizal, il dit, c'est pas possible. Il dit, si tu me dis que vraiment c'est comme ça, que même il y a un gap énorme. Ok, le Ramak, il a dit, il y a un gap énorme. Il a dit, c'est toujours impossible. Pourquoi? Et c'est là que, pourquoi c'est impossible, le Harizal explique dans des termes très compliqués. Pour comprendre ce que l'Harizal dit, on va lire dans les mots. Vous allez voir qu'avec là maintenant on va comprendre ce que veut dire le mot Azaket. D'accord ? Dans les mots. Ar derer klal. D'accord ? Alors, veine, je recommence à veine. Veine. Pratiyut atinsumim erhuma enkan mekom yura. Le mot Azaket dit, on va essayer d'expliquer ce que l'Harizal dit. Que l'Harizal dit que c'est pas possible que Kadosh Baruch Hu a créé le monde dans un système de cause à effet. C'est obligatoire qu'entre la cause et l'effet, il y a eu un tzimtzum. Ça veut dire qu'il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure à un moment. Il y a eu ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah un makom panoui. C'est-à-dire il y a eu un vide. Et de ce vide, il y a quelque chose qui est né. Pourquoi on est obligé d'expliquer ça? Alors, Mourad Zakel nous dit déjà, sache que je ne veux pas te rentrer dans les détails ici pour t'expliquer quel était le tzimtzum. C'est-à-dire quelle coupure il y a eu, comment ça s'est passé.
Oui, c'est passé la fracture.
D'accord, c'est pas mon rôle. D'ailleurs, il explique à un autre endroit, dans son écouté Torah, il explique. Mais c'est pas mon rôle ici. Ach, derer klal, enhem, prinat ester ve'elem amshachat ha'or ve'achayut, shelo ya'ir ve'yumshach letartoni prinat gilui, le'itlabesh, ou le'ashpia le'en ou le'achayut ha'milot yeshmei. Mais le concept du Tzimtzum, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu s'est voilé et s'est caché de manière à ce que l'effet qui va, enfin, nous n'avons aucun rapport avec Akadosh Baruch Hu. Ki'im, mais at miser or vechayut, Akadosh Baruch Hu nous a donné seulement une quantité infime de d'énergie, birdesh et yub et prinat gvul vetachut. Pour que l'humain soit limité, Akadosh Baruch Hu est obligé de faire une coupure à un certain moment et de dire, vous n'aurez rien à voir avec moi. Pourquoi? Pourquoi on est obligé de dire ça? Alors, il donne un exemple. Les gabé prinat arab l'ekvul vetachut, c'est une quantité, une lumière qui est insignifiante par rapport à une lumière infinie. Pourquoi c'est insignifiant? V'en benem erer v'yachaskal, il n'y a aucun rapport entre eux. Kanoda pirush milat erer b'misparim. Et c'est là qu'on va comprendre. Ça, le Harizal n'explique pas. C'est le Mourad Zaken qui explique. Je donne un exemple. Il dit, comme c'est connu, milat erer b'misparim. Erer en hébreu, ça veut dire un rapport. Un rapport, un.
Proportion.
Shechad b'mispar, yeshlo erer le gabé mispar alef alafim. La Mourad Zaken veut essayer de nous expliquer ici pourquoi le limité et l'illimité sont deux notions complètement différentes, et que l'illimité ne peut pas donner naissance à du limité. Pourquoi c'est deux mondes complètement différents? Et que c'est pas du tout le même cause, ça peut pas être un système de cause à effet. Il dit, c'est très simple. Il dit, dans le système de RR, ça veut dire, dans le système, on a dit des proportions. Pardon. Le chiffre 1. Yeshlo RR, il a une valeur, les gabé mispar élève à la fine. Élève à la fine, ça veut dire 1000 fois 1000, ça fait qu'on fait 1000 milliers, ça fait 1 million. D'accord. 1 par rapport à 1 million, c'est vrai que c'est rien, c'est presque rien, mais c'est pas rien. C'est une valeur. Pourquoi? Parce que c'est quoi 1 million? 1 million, bah c'est 1 million fois 1. D'accord. Si tu enlèves même 1 euro de ces 1 million d'euros, bah t'as plus 1 million d'euros. Ça veut dire que pour faire 1 million d'euros, chaque euro est important, on est d'accord? Ah bien sûr, tu vas me dire c'est insignifiant. Peut-être c'est insignifiant. Mais tu pourras jamais dire que ça n'a pas de valeur. Ça a toujours une valeur. Il y a un RR. Il y a une valeur. Shu chelek echad, minyan le palafim. 1, d'accord, même si tu prends 1 par rapport à des milliards, mais ça a toujours sa valeur, ça vaut quelque chose. Parce qu'on est toujours dans du limité. Donc c'est pour ça que je dis, par exemple, moi ce que je fais ici, par rapport au Gan Eden, même si le Gan Eden c'est 1000 milliards de 1000 milliards, mais il y a un rapport. Pourquoi il y a un rapport? Parce que pour faire 1000 milliards, il faut plusieurs 1, il faut beaucoup de 1, il faut 1000 milliards de 1. Ah Val, mais regardez ce qu'il y a de Morazaken, les gabés d'Avar.
C'est un circuit,
ça, il n'y a plus de circuit. Attendez, regardez ce qu'il explique à Ah, Valmé, les gavés d'Avar, je suis au prénat de Blikvoul, par rapport à quelque chose d'illimité, par rapport à quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin, ça, j'ai fini la promo. D'accord. Ou Mispar Klal, en kenegdo shumerer be misparim. Mais maintenant, essayez de comparer. Afilou et l'Efe Alafim. Alors, écoutez bien. Essayez de comparer 1, d'accord. Essayez de comparer 1, d'accord, à l'infini. Ça n'a pas de valeur. D'accord.
Attends vers 0. Mais...
Attends, j'ai pas fini. Essayez de comparer 1 à l'infini. Ça n'a pas de valeur. Essayez de comparer maintenant 1 milliard à l'infini. Ça n'a toujours pas de valeur. Maintenant, écoutez bien la question. Voilà, c'est ça la réponse. Est-ce qu'il y a une différence entre la valeur de 1 par rapport à l'infini et la valeur de 1 milliard par rapport à l'infini? C'est la même chose.
1 milliard, 2 000 milliards, 2 000 milliards.
Avec, qu'est-ce qu'il nous explique avec ça?
C'est pas le même problème.
C'est pas le même monde. C'est pas du tout la même chose. L'infini. D'accord? L'infini et le fini. Nous, quand on s'imagine l'infini, qu'est-ce qu'on se dit? Oui, des milliards, des milliards! On dit Al-Khmar. Des milliards. Tu rajouteras toujours 1 et 1. Toujours, tu pourras aller sans fin. Ça s'arrêtera jamais. D'accord? Enfin, je parle Al-Khmar, je parle de moi, hein. Je parle de personne.
pas, ça suffisait.
D'accord. Donc, nous dit l'Admor HaZaken. Oui, pas de problème. Je continue un peu à expliquer.
Oui, pas de problème.
Je pense que vous avez compris l'idée.
Si on fait des limites, c'est ça ce que ça veut dire. On a, en mathématiques, on a tous fait des limites. C'est tout. Une limite divisée par l'infini, c'est mort.
Bah, c'est une limite. C'est déjà une limite.
C'est mort.
Mais même en. Mais dans les maths, on n'a pas d'infini.
Comment ça, pas d'infini?
Bah non.
On sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est le vrai infini.
Comment ça? On appelle l'infini.
C'est un infini, non.
D'ailleurs. Plus l'infini, moins l'infini, c'est pas mal quelque chose.
Je vous expliquer.
C'est quelque chose d'indéterminé. Il faut faire une développement.
C'est un infini. L'infini qu'on connaît en maths, c'est un infini quantitatif.
Dans les nombres, oui.
Oui, donc c'est un infini dans les nombres.
Ouais.
Là, on parle complètement d'autre chose.
Non, on peut le voir dans plusieurs directions.
Non, attendez, je vais expliquer ce que je veux dire. L'infini que nous, on connaît aujourd'hui, dans les maths, c'est un infini quantitatif. C'est-à-dire, je dis, voilà, tu vas compter un milliard, et bien, il y aura toujours un chiffre après, toujours, ça ne s'arrêtera jamais. Ça, c'est un infini dans la quantité. Là, le blick boule par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est complètement autre chose. C'est pas que je vais un million de verres, et je dis, bon, bah, c'est infini parce que tu pourras toujours avoir un de plus. Non. C'est j'ai un seul verre, mais la nature de ce verre, la qualité de ce verre est infinie. Ça, on peut pas comprendre. Ça, c'est des choses que les maths ne peuvent pas comprendre. On peut pas comprendre. Je dis pas que j'ai compris,
ouais.
Mais je dis que ça, c'est le concept de blick boule dans chaque Kadosh Baruch Hu. Et avec ça, je vais expliquer.
Non, mais... Si en mathématiques, on dit, droite, le peuple, je sais. Non, en mathématiques, le fait qu'on dise plus l'infini, moins l'infini, on ne sait pas faire.
Oui.
Ça veut dire que ça n'a pas le même sens que 2, 28 et 43.
Oui.
D'ailleurs, on prend un signe qu'on le change de sens. On met un 8 allongé.
Donc, vous voulez dire que l'exemple des maths suffit pour ce
non,
qu'on va arriver.
Non, ça suffit. Je dis que c'est ça la notion de l'infini en mathématiques, je parle.
En mathématiques.
C'est quelque chose qui n'est pas... D'ailleurs, c'est même pas de telle sorte qu'on ne peut pas faire des opérations avec l'infini.
Oui.
On ne peut rien faire. Si c'était comparable à un chiffre...
Parce qu'on n'a pas de repère.
C'est-à-dire que c'est hors de la norme, c'est infini.
Mais ce que j'ai juste dit ici, c'est que la seule différence qu'il y a, c'est que l'infini en maths est un infini en quantité. Ça veut dire que je sais ce que c'est un verre, mais je te dis, tu vas avoir infini de verres. C'est-à-dire la matière du verre, je la connais. Mais je te dis, c'est exponentiel, exactement. C'est-à-dire, tu peux en avoir autant que tu veux, ça ne s'arrêtera jamais. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est la nature même du verre que, avec une chose, c'est infini. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. C'est autre chose. Bon. Avec ça, qu'est-ce qu'il explique Admor HaZaken? Qu'est-ce qu'il explique Admor HaZaken avec ça? Ce qu'il explique Admor HaZaken avec ça, c'est que on peut pas dire que le système dans lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est un système de cause à effet. Puisque si c'était un système de cause à effet, d'accord, obligatoirement, l'effet qui sommes nous, on aurait dû être de la même nature qu'Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu est de la même manière qu'un homme ne peut pas donner naissance à un chien, parce que c'est pas la même chose, c'est pas parce que la cause et l'effet doivent avoir les mêmes caractéristiques. Si Akadosh Baruch Hu est illimité, d'accord, il aurait dû donner naissance, nous, le monde, d'accord, qui est créé par Akadosh Baruch Hu, aurait dû être aussi illimité. Or, c'est pas le cas. Donc, on est obligé de dire que la manière comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, d'accord,
à la base,
on n'a jamais été illimité. Ce qu'on est en train de dire, c'est que même le Gan Eden, il est limité. Tout est limité dans notre monde. Même le Gan Eden. Même les anges, même les tzadikim.
Mais à la borne, parce qu'on a un début, c'est pour ça qu'on est limité.
La question qu'on se pose ici, c'est comment s'est passé le transfert entre de l'illimité au limité.
Oui, c'est ça.
C'est ça la question qu'on se pose ici.
On a une
bande
de fin ou pas une bande de fin, finalement.
Pourquoi peut-il y avoir une continuité dans l'action?
Parce que c'est une bonne question ce que tu poses, je vais te dire pourquoi. Parce que puisqu'on dit que le système dans lequel nous on vit aujourd'hui, le système comment on procrée, tout le système de notre monde, est un système de cause à effet, vous avez compris ce que je veux dire?
D'accord.
Oui. Donc, le Ramak a voulu expliquer...
La cause à effet, certes pour nos références à nous, mais à la création de Dieu, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de se détacher de la création?
Très bien, ah c'est sûr,
c'est
Dieu a fait comme ça.
Il a fait comme ça.
Mais le Ramak ne pensait pas comme ça. Lui, le Ramak, il a dit... C'est vrai qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a un grand gap entre la cause d'acquérir à Kadosh Baruch Hu et nous. Mais il y a toujours un rapport. C'est-à-dire qu'on va monter, ben quelque part, on arrivera à la fin. Ça, on n'y arrivera jamais parce qu'on c'est trop loin pour nous. C'est des années-lumière, on aurait dit aujourd'hui. Mais on peut y arriver. Ça veut dire qu'il y a un rapport. Le Harizal, il vient et dit non. Le Harizal, il vient et dit, s'il y avait un rapport, il y a eu obligatoirement à un moment une rupture. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de rupture, à chaque fois que tu donnes naissance, même si c'est des variantes, mais il faut toujours que le bébé a un rapport. D'accord? Avec ce qu'il y avait avant. Ça veut dire jamais dans la race humaine, un homme n'aura naissance à un chien. Même dans des millénaires, ça n'arrivera jamais. Pourquoi ça n'arrivera jamais? Ça n'arrivera jamais parce que c'est pas la même nature, c'est pas la même chose, c'est pas possible. On peut pas donner, c'est pas la même chose. On n'est pas dans le même monde. Il y a les chiens, il y a les animaux, il y a les hommes. De la même manière, Akadosh Baruch Hu qui est illimité, même si tu veux me dire qu'il y a un grand gap et que c'est descendu. Mais, obligatoirement, il y a eu un certain moment une rupture, parce que si tu me dis qu'il n'y a pas eu de rupture et que c'était du non-stop, eh ben c'est, donc Akadosh Baruch Hu il a créé un niveau, après ce niveau a créé un autre niveau, après les tzadikim, le gané, tatatata, jusqu'à qu'on arrive à chez nous, ben, le résultat final devrait être illimité. Si tu me dis que ça a été créé en mode cause à effet, le résultat final doit avoir la même caractéristique que le premier. Au moins un petit peu. Or, il n'a rien du tout du premier, puisque le premier est illimité. Lui, il n'est pas limité. D'accord ? Lui, il est limité. Donc, c'est pas la même chose. Donc, de là, on est obligé de dire. D'accord ? On est obligé de dire que quoi ? Qu'il y a eu une rupture. Suivez ? Est-ce que vous suivez ? Si vous n'avez pas compris, je répète. D'accord ? De là, on est obligé de dire que qu'il y a eu une rupture. C'est quoi la rupture ? La rupture, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzoum. Tzimtzoum, ça veut dire qu'à un certain moment, Akadosh Baruch Hu, c'est le Orin Tov, Akadosh Baruch Hu a enlevé sa lumière. Alors après, bon, il y a plusieurs termes dans la Kabbalah qu'on expliquera après.
C'est contracté ?
C'est pas seulement que c'est contracté. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, à un certain moment, il a enlevé sa lumière, et on amène dans la Kabbalah l'exemple d'un rideau. On dit qu'il a, il a enlevé sa lumière, mais il a laissé un rideau par lequel il y a des rayons de lumière qui vont passer. Mais ces rayons de lumière, ils n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait derrière. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a une rupture à un certain moment. Et cette rupture fait que c'est pas un système de cause à effet. Ça veut dire que pourquoi je dis ça ? Pourquoi c'est très important de comprendre ça ? Qu'est-ce que ça change ? C'est pour dire que, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une différence entre 1 et l'infini et 1 milliard et l'infini ? On a dit qu'il n'y a pas de différence. Bon, alors dans mon exemple, 1 c'est nous, 1 milliard c'est le Gan Eden, l'infini c'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a une différence entre le rapport entre nous et Akadosh Baruch Hu et Gan Eden et Akadosh Baruch Hu ?
Aucune.
C'est énorme ça. Après le Rama, il y a une différence. Le Rama qui te dit, c'est une cause à effet, c'est un grand cap, mais c'est une cause à effet. Donc par rapport au Rama, le Rama qui te dit, bah écoute, le Gan Eden, ils sont plus près de Dieu que nous.
Oui, mais par rapport à...
C'est ce qu'il dit le Rama. Arizal, il dit non. Arizal, il dit non. D'ailleurs, tout le monde est d'accord avec l'Arizal. Arizal, il dit non. Il dit non, il dit 1 par rapport à l'infini et 1 milliard par rapport à l'infini, c'est kiff. Donc, notre monde par rapport à Kadosh Baruch Hu et le Gan Eden par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est kiff. Ça veut dire qu'avec ça...
Ce qui est kiff, c'est notre distance par rapport à Dieu.
Oui.
C'est pas notre distance...
Bien sûr. Ça veut dire que c'est toujours... C'est kiff. La distance, c'est la même.
Non, mais dans le sens où il y a une différence entre nous et le Gan Eden, il y a un ordre de grandeur.
Oui. Mais là aussi, vis-à-vis de l'infini. Et aussi, il y a une différence entre 1 et 1 milliard. Celui qui a 1 euro et celui qui a 1 milliard, c'est pas la même chose. D'accord ? Mais par rapport à l'infini, les deux ont la même valeur. Puisque par rapport à l'infini, ça vaut rien. Par rapport à l'infini, 1 milliard, ça vaut rien, et 1, ça vaut rien non plus, c'est 0. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a tous faussé les pistes, là. Nous, jusqu'à présent, on croyait Gan Eden. Donc, tu me dis, mais attends, de toute façon, Gan Eden par rapport à Dieu, et nous par rapport à Dieu...
Si on dit proche de zéro, on est toujours
dans
le système.
Oui, mais le non, on n'est pas proche de zéro, on est
non,
zéro.
On est zéro. Voilà.
Zéro.
C'est pas la même chose, parce qu'on n'est même pas sur les mêmes échelles de valeur.
C'est ça justement, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. C'est qu'on est proche de zéro, ça c'est un système de Ilavelou.
Voilà, ça c'est tout à fait. Si on est proche de zéro, on vaut quelque chose par rapport à ma...
Voilà, je ne vaux presque rien, mais je vaux quelque chose. C'est comme, tu vas dire, des sujets par rapport à un roi, ils valent presque rien, mais ils valent quelque chose. Parce que sans eux, le roi n'aura pas son royaume.
Comme on dit, l'effet
l'image de... Ah, bon, on s'en expliquera après.
C'est comme l'effet d'un 0-1 dans un circuit de milliards. Un 0-1 sur un circuit qui n'est pas fermé, 0-1, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas.
Oui.
C'est encore plus...
Ah, mais là,
il y a une différence nette entre 0 et 0-0-0.
Voilà. Là, ça veut dire que nous, il y a eu une rupture entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et ça veut dire que nous, même si on va s'approfondir, monter Gan Eden, jamais on pourra dire qu'on est plus près d'Akadosh Baruch Hu. Et ça le Ramak n'était pas d'accord avec ça. Le Ramak pensait que non. Plus on monte, plus on approche d'Akadosh Baruch Hu. Là, Arizal, il vient, il a fait une rupture. Il a dit non. Il y a eu une rupture entre Akadosh Baruch Hu et nous. D'accord ? Et donc, le résultat fini n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a créé. Mais c'est-à-dire que la méthode qu'il a utilisée et qu'il a employée pour créer est une manière d'une rupture. Nous, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Parce que nous, tout ce qu'on crée, c'est avec une création. Je vous donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, un artiste. D'accord ? Un artiste qui crée quelque chose. Un artiste qui va créer, qui va former quelque chose. Ben, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, dans l'artiste, d'accord, il va signer son art. Ça veut dire qu'il va signer son âme. Ça veut dire que si le même artiste va faire plusieurs ustensiles, et ben un connaisseur saura te dire, ben ça c'est un tableau de Picasso. D'où il sait ? Ça fait, même si c'est pas signé Picasso, d'où il sait que c'est Picasso ? Parce que l'artiste qui a fait cette pièce, cette pièce d'œuvre, il a signé son œuvre sans qu'il le veuille. D'accord ? Ça veut dire quoi, encore une fois ? Ça veut dire que tout ce qu'on a dans le monde, c'est un système de cause à effet. Et que si cet artiste a créé telle peinture, eh ben, la peinture a un rapport avec l'artiste. Donc c'est pour ça qu'un connaisseur sera capable de retracer l'artiste par rapport à la peinture. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Hein. Nous, on a une peinture ici en face de nous, on a le monde. Mais t'auras beau chercher, tu trouveras pas Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, tu trouveras Akadosh Baruch Hu, mais tu trouveras pas les caractéristiques de base d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rupture. Alors, en quoi ça nous concerne ? Pourquoi on a besoin de savoir ? Alors, premièrement, ça nous concerne pour nous dire, pour la première chose que j'ai dit, d'accord ? Pour dire qu'on est aussi loin d'Akadosh Baruch Hu que le Gan Eden est d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est déjà un grand plus. Ça veut dire que, quand on dit aux gens, on leur dit, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il dit que le but est dans ce monde-ci, le monde d'ici-bas. Il dit, mais attends, c'est pas le Gan Eden le but ? Avec ça, on comprend.
Mais autant, ça dérange, c'est vrai, cette notion de rupture. Pourquoi elle dérange ? Parce que dans le service de Dieu,
Attention. Oui. Attention. J'ai pas dit que le monde tel qu'il est ici-bas n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. J'ai dit que dans la méthode de création,
d'accord,
c'est pas à cause à effet. À un moment, Dieu a dû faire une rupture. C'est-à-dire que le produit fini n'a rien à voir avec le créateur. Tu comprends ?
D'accord.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends un tableau, tu retrouves son créateur. Là, le tableau fini n'a rien à voir avec le créateur. Il faut pas que je croie qu'en analysant la nature, je vais retrouver Akadosh Baruch Hu. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, on va dire qu'il se cache dans la nature, etc. Mais je ne retrouverai jamais les caractéristiques de base d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je vous disais pourquoi c'est important de comprendre ça. Tout d'abord, pour comprendre que on est aussi loin d'Akadosh Baruch Hu que le Gan Eden est loin d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est un deuxième point aussi. Et c'est là qu'on va arriver au point de quand même Apani. C'est que si tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, alors nous aussi on va l'aimer. D'accord ? Tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a aimés, et il est descendu vers nous, etc. Ben, nous aussi on va monter vers lui. Et là, on te dit plus fort que ça. On te dit que c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu vers nous. C'est plus que ça. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il s'est annulé pour nous. Je me suis dit, hein ? Akadosh Baruch Hu, il a presque donné sa vie pour nous. On est d'accord ? Parce qu'il a, enfin, il a donné sa vie. Akadosh Baruch Hu a fait une rupture, ça veut dire qu'il a arrêté quelque chose qu'il avait pour nous. Pour que le monde se crée. Parce que sinon, notre monde ne se serait pas créé. Avec ça, on comprend comment ça peut nous donner la force, nous, on s'en va expliquer après, de faire mes sirut nefesh de l'autre côté.
Vous comprenez que... l'infini, ça peut pas se...
Encore une fois, mais le concept, si Akadosh Baruch Hu était infini, pour créer du fini, il a dû faire une rupture, donc rupture, ça veut dire qu'il s'est coupé.
Mais il a rien
donc fait. Nous aussi, quand on va devoir se couper de notre plaisir pour monter chez Akadosh Baruch Hu, on a de qui tenir. On dit, voilà, toi Dieu t'as fait une rupture, moi aussi je fais une rupture.
Mais nous, on se sépare de quelque chose, il ne peut pas se séparer puisqu'il est infini.
Si, lui il s'est séparé du système cause à effet. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il a dû faire une rupture.
Il a changé de méthode.
Donc il a fait une rupture. D'accord ? On la connaît pas. Bon, je vais essayer d'expliquer un peu, je vais raconter une petite histoire pour conclure ce que je veux dire, parce qu'on a expliqué aujourd'hui la marloquette qu'il y a entre le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et le Harizal. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui déjà ? Avant de raconter l'histoire, il faut d'abord qu'on retienne bien. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui ? Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que notre but ici maintenant est de poser le repère. Rappelez-vous, on a dit que on a compris que Dieu c'est un grand roi, on a compris que nous sommes des clochards, bon peut-être, on a compris qu'on sort d'Égypte, mais on a toujours du mal à comprendre pourquoi on doit quelque chose à Kadesh Baruch Hu, puisque on n'arrive pas à se situer par rapport à Kadesh Baruch Hu, on ne sait pas qui on est par rapport à Kadesh Baruch Hu. Donc pour pouvoir se situer par rapport à Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'expliquer le processus de la création. Et avec ça, on va comprendre qu'est-ce qu'on est par rapport à Kadesh Baruch Hu. On essaie de se situer par rapport à Kadesh Baruch Hu. On est d'accord ? Bon, alors qu'est-ce qu'on a expliqué ? On a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu est quelque chose d'infini. Ça veut dire quoi quelque chose d'infini ? Akadosh Baruch Hu, c'est infini. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu est infini, ça veut dire qu'il n'a pas de but. On ne peut pas dire que c'est un système de cause à effet et qu'il y a un but. Il n'y a pas de but chez Akadosh Baruch Hu. Et là, on est rentré dans la notion de l'illimité. On a dit que nous, notre monde, tout ce qu'on a dans notre monde est limité. C'est-à-dire qu'il y a un but, et il y a un point jusqu'à lequel on peut arriver. Il y a un point qu'on ne peut pas dépasser. D'accord ? Tout ce qu'on a dans notre monde a un but. A un but, a une finalité. Même le Gan Eden, on a dit, ils ont une limite. C'est quoi la limite du Gan Eden ? Vous vous rappelez ? C'est quoi la limite que le Gan Eden a ? Quelle limite ils ont dans le Gan Eden ?
Au niveau des actions, faire.
Au niveau de ? Non, au Gan Eden.
Au Gan Eden, c'est l'action qu'ils peuvent faire.
Ils ne peuvent plus faire l'action. Mais ils ont une limite même au niveau de leur perception, comme ce que tu as dit. D'accord ? C'est que même au niveau... tout le monde est limité. Il n'y a rien qui n'est pas limité dans ce monde. Même le Gan Eden, les Neshamot, les Malachim, tout est limité. Pour ça d'ailleurs, il y a même un Midrash qui dit qu'à un certain moment, à Kadosh Baruch Hu, il a demandé aux Malachim conseil avant de créer le monde. Et les Malachim, de créer l'homme. Et les Malachim ont dit, non, on ne va pas créer l'homme, pourquoi on va créer l'homme ? À Kadosh Baruch Hu, c'est écrit qu'il a pris son doigt de feu et qu'il leur a dit, vous continuez, je vous brûle. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce machal-là ? Il veut nous dire que même les Malachim, que Kadosh Baruch Hu, il est parti leur demander conseil pour créer l'homme, ben, ils n'étaient pas capables de comprendre à quoi servait un homme. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu leur a dit, il leur a montré le doigt de feu pour leur dire, vous allez jamais comprendre. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le monde, même les mondes spirituels, tout ce qui existe est limité. Donc d'où la question de Delmo Zaken. Si c'est du limité, c'est pas possible que Kadosh Baruch Hu qui est illimité a créé un objet limité. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est... D'accord ? Parce que si un système de cause à effet, l'illimité doit créer l'illimité. Alors peut-être l'illimité qui est moins fort, mais encore une fois, l'illimité moins fort, ça ne peut pas exister. Est-ce que vous comprenez ? Parce que si tu dis que c'est un illimité qui est moins fort, c'est plus l'illimité.
Pourquoi donc, on peut très bien être illimité et créer du limité. Pourquoi je sais pas que...
Non, on peut être illimité et créer du limité, mais pas dans un système de cause à effet.
D'accord, oui.
Très bien. C'est tout. Encore une fois, t'as raison. Donc, nous, on veut seulement poser des repères. On veut savoir comment Kadosh Baruch Hu nous a créé. Il y a des gens qui vont te dire, oui, si on va s'approfondir, on finira par arriver à Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Là, déjà, il met le repère. Il te dit, ne cherche pas.
Non,
entre moi et Dieu, et le Gan Eden et Dieu, c'est la même chose.
Mais même si d'accord, on cherche à le faire, on est limité.
Oui, mais c'est pas oui, d'arriver à Kadosh Baruch
Hu. Le but, mais on aurait pu penser que plus on va monter spirituellement et plus on sera près de Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'on a pu croire. Et qu'est-ce qu'on te répond ? On te dit non. De la même manière que 1 n'a rien à voir avec l'infini, de la même manière 1 milliard n'a rien à voir avec l'infini. C'est la même chose, c'est kiff-kiff.
Bon, justement, alors c'est une idée qui, comme je disais, qui dérange pour le service de Dieu.
Pas du tout.
Pourquoi ?
Parce que la méthode, comme... Là, on a simplement parlé de la méthode comment Kadosh Baruch Hu a créé le monde.
D'accord.
On te dit qu'il n'a pas créé le monde dans la méthode de création que nous, on connaît, qui est un système donc, de cause à effet. Il a créé le monde dans un autre système, dans un système de...
De rupture.
Il y a eu une rupture à un certain moment. D'accord ? Pourquoi c'est important de comprendre ça ? Pour placer les repères. Pour dire que, à Kadosh Baruch Hu, c'est une autre, c'est l'illimité. L'illimité, l'illimité ne peut pas se comparer.
Non, mais ça ne peut faire une rupture de manière, t'as fait une cause, excuse-moi, t'as fait une cause, t'as fait un effet.
Oui.
Il y a des causes, tu stops.
Oui.
Et après, ça repart. Mais il y a toujours l'effet du départ qui est là. Ça peut mettre une rupture à un moment donné. C'est bien l'effet du départ, même qu'il y a la rupture.
Très bien.
C'est pas la rupture qui va bloquer.
Parce que nous, dans notre monde, on peut pas s'imaginer ce que c'est une rupture. Parce que nous.
C'est-à-dire que si il y a rupture, ça voudrait dire que c'est à partir de ce point de rupture qu'il y a autre chose.
Très bien.
Alors, ça, c'est pas le cas.
C'est une bonne question. Ça veut dire comme ça. Je vais expliquer ce que je veux dire. Très simple. C'est que s'il n'y avait pas de rupture, t'aurais personne dans ce monde qui aurait pu renier l'existence de Kadosh Baruch Hu. C'est impossible. Ça devrait pas être possible.
Oui,
le monde en soi, on a dit, il serait illimité. C'est quoi le concept de rupture ? Ça n'existe pas chez nous. Nous, dans notre monde, on ne sait pas ce que ça veut dire une rupture. Il y aura toujours un système de cause à effet. Jamais la cause peut s'arrêter. Jamais la cause va s'arrêter et il y a un effet qui va sortir tout seul. Ça ne peut pas exister. D'accord ? Quand on dit que Kadosh Baruch Hu a créé le monde, Yesh Me'ain, ex nihilo, ça veut dire quoi ex nihilo ?
De rien.
C'est ça. C'est quoi ex nihilo ?
De rien.
Comment du rien peut créer quelque chose ? Tu peux m'expliquer ? C'est pas possible. Nous, on a jamais vu le contraire, que quelque chose est devenu rien.
Donc rien est la rupture.
Voilà. C'est rien qui est la rupture. Comment tu me dis ex nihilo ? Comment du rien peut créer... Tu me dis ex nihilo, ça veut dire que le vide a créé quelque chose. Le zéro a créé un 1. Ça, c'est ce que ça veut dire.
C'est bien connu, la nature...
D'accord ? Comment le zéro a pu créer un 1 ? J'ai déjà vu que le 1 devienne un 0, mais pas que le 0 devienne un 1. Donc, c'est quoi le 0 ? Le 0, c'est la rupture. Ça veut dire qu'un des miracles qu'Kadosh Baruch Hu a fait, c'est qu'il a créé un nouveau produit qui n'a rien à voir avec lui-même. D'accord ? C'est fait exprès. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça ? Parce que sinon, le monde n'aurait pas été limité. Il fallait que le monde tel qu'il est ait un look, d'accord ? Il fallait que le monde tel qu'il est créé ait un look de quelque chose de séparé d'Kadosh Baruch Hu. Et quelque part, il est vraiment séparé d'Kadosh Baruch Hu, puisqu'il y a eu une rupture.
Libre-arbitre, tout ça.
Voilà. Parce qu'on est libre-arbitre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne peut vivre toute sa vie sans croire en Dieu ? D'accord ? Comment c'est possible ? Tu prends un tableau, un beau tableau, d'accord ? Un beau tableau qui est ici, là. D'accord ? Je prends un tableau, tu vas faire un Picasso. Jamais quelqu'un il va te dire, il n'y a personne qui a fait cette peinture-là. Personne ne va te dire ça, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un derrière. On sait que c'était fait à une cause. Comment ça se fait que nous, on a un monde ici, On ne sait pas d'où il vient. Naturellement, on ne sait pas d'où il vient.
Non, mais enfin, beaucoup de scientifiques.
D'accord. Pourquoi on ne sait pas d'où il vient? Comment ça se fait? Si c'était créé un système de cause à effet, alors on devrait être capable de remonter jusqu'à arriver à la cause. Or là, matériellement, si on spirituellement on fait ce qu'on veut, mais matériellement, on peut pas remonter. Matériellement, on n'a pas preuve que Dieu existe.
Oui, c'est même les théories qui disent Big Bang.
Oui.
Bon, ok, mais avant le Big Bang.
Très bien. Ça, donc, même matériellement, ça, on n'a pas de preuve.
Ça correspond. Mais ça correspond.
Donc encore une fois,
oui.
Le Big Bang.
Mais avant l'instant zéro, qu'est-ce qu'il y a?
C'est justement.
Voilà, c'est ça.
C'est donc l'instant zéro.
L'instant
zéro,
c'est la rupture.
Tu comprends? Parce que s'il n'y avait pas eu cette rupture, le monde tel qu'il avait été créé aujourd'hui, d'accord, n'aurait pas pu être limité. Il n'aurait pas pu paraître indépendant. Bien qu'on sait que c'est pas indépendant. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, même s'il a créé une entité indépendante, il reste toujours derrière. Mais comment ça se fait que le monde a l'air indépendant? Maintenant on a compris. Pourquoi le monde? Parce qu'il y a une rupture. S'il n'y avait pas cette rupture, eh ben, de l'illimité n'aurait jamais pu créer du limité. C'est pas possible, c'est impossible, ce n'est pas possible. D'accord. Alors,
oui, de la même manière, s'il y a eu cette rupture pour qu'il y ait quelque chose,
ouais.
Il peut y avoir en même temps d'autres choses. C'est-à-dire des mondes parallèles, des créations qui sont différentes de nous. Enfin,
voilà, alors ça c'est la raison pour laquelle le Rama qui ne voulait pas rentrer dedans. Le Rama qui ne voulait pas dire qu'il y a une rupture, parce que dès que tu dis rupture, c'est dangereux. Tu dis rupture, ça veut dire que c'est ce que les premiers idolâtres disaient. Ils disaient, Dieu a créé la terre, mais il l'a laissée. Il la laisse tourner. C'est la nature, il y a une rupture, c'est séparé.
Les Grecs qui disent ça.
Ça, c'est les premiers idolâtres qui disent. C'est depuis avant les Grecs déjà.
Non, mais c'est les Grecs qui disent.
Les Grecs, aujourd'hui, aujourd'hui, la science grecque nous dit ça. Oui, Dieu a créé la terre, pas de problème. Mais après, il l'a laissé. La nature aujourd'hui tombe tout seul. Et tu vois,
c'est l'autonomie.
Et ça vient. Et oui, et a priori, l'idée de la rupture aurait pu confirmer ça. Seulement, la seule chose qu'ils savent pas, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, même s'il y a une rupture, il reste derrière. Et il gère ce qui se passe. D'accord? Ça veut dire que, il ne l'a pas créé dans un mode de cause à effet. Il a créé ex nihilo, voilà, 2-0, 1. Mais, il est derrière. Ça veut dire qu'il gère, télécommande. D'accord? Bon. Comme l'a dit le Mourazakaen, on n'est pas là maintenant pour rentrer dans le détail du Timtsum. C'est pas notre but. Notre but ici, qu'est-ce que c'est?
D'avoir la notion de dire voilà.
D'avoir la notion d'essayer de mettre des repères. Parce pourquoi on a du mal à se sentir reconnaissant vers Akadosh Baruch Hu? Il m'a dit à Kadash Boko, il m'a fait sortir d'Égypte, il m'a fait sortir de mon Égypte, il m'a fait sortir de mes limites, il me permet d'aller vers le spirituel. Pourquoi j'ai du mal à me sentir reconnaissant à Kadash Boko? Parce que je ne sais pas ce qu'est Kadash Boko. Alors là, je ne dis pas qu'on va savoir ce qu'est Kadash Boko, on ne pourra jamais savoir, puisque nous on est limité, et lui il est illimité. Mais maintenant on commence à comprendre pourquoi on ne va pas savoir ce qu'est Kadash Boko. Vous comprenez? C'est-à-dire, avant on dit bon, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est qui. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi on ne peut pas savoir ce que c'est Akadosh Baruch Hu. On commence à comprendre qu'il y a du limité, il y a de l'illimité, que nous qui sommes limités, on ne peut pas venir directement de l'illimité, donc il y a une rupture. Donc qui dit rupture dit qu'il y a une coupure, donc à un certain moment, il y a un blocage. Et là, ça va nous permettre petit à petit, ça va prendre du temps, de poser des repères, de comprendre ce qui se passe. Alors, je voulais conclure avec une histoire. Il y a une fois, quelqu'un qui est venu voir la demande à Zaken. C'était, donc, le Beth Morazakan avait un Beth Midrash, et il avait donc des élèves qui étaient là, qui étudiaient, et quelqu'un qui est rentré, qui était habillé avec le vêtement des... Vous savez, ça commençait déjà à cette époque-là, l'émancipation. Donc il est rentré avec les vêtements, avec la veste courte. À l'époque, personne ne portait la veste courte. On appelait ça les vêtements des émancipés. D'accord? Bon, alors, il rentre, et il demande à parler au Beth Morazakan. Alors les élèves qui étaient là, ils se mettent à le taquiner, ils disent oui, qu'ils sont posés devant Zaken. Bon, ils sont mis à le chauffer un petit peu. Et bon, lui, il a vu qu'on l'a taquiné, il a dit, bon, dans ce cas-là, vous voulez pas que je parle à votre ami, je m'en vais. Il est parti. Quelques minutes plus tard, devant Zaken est sorti, comme ça, pour aller chercher un livre. Et ses élèves lui racontent, ah, vous savez, il y a quelqu'un qui est rentré, il a dit, allez le chercher tout de suite. Ils vont le chercher. Et là, devant Zaken se met à parler avec lui. En fait, minute, il va se mettre à le Alors ils discutent. Et à ce moment-là, ce juif qui est émancipé pose une question à Admor HaZaken. Il pose la question suivante. Il dit, écoutez, je dois me marier, mais j'ai un choix entre deux femmes. On va proposer deux femmes. Il y a une femme qui a du Ihrus, c'est-à-dire qui a un bel arbre généalogique, c'est-à-dire que ses parents et ses aïeux, etc. sont très importants, mais elle n'est pas belle. L'autre femme, elle est très belle, mais elle n'a pas de Yichus. Elle n'a pas de... Laquelle de choisir? Alors moi, les élèves, ils entendent, ils comprennent pas ce qui se passe. Et la Morazaket m'a réfléchi. La Morazaket m'a réfléchi. Il dit, à la fin, il donne la réponse. Il dit, Yichus, c'est important. C'est important, le Yichus, devenir une bonne famille. Mais la beauté, c'est encore plus important. Alors, prends la belle femme. Bon, après il est parti. Il a eu sa réponse, il est parti. Les élèves, bon, ils étaient un peu perturbés, quoi. Ils n'ont pas compris. D'accord. Ils n'ont pas compris. Excusez-moi, ravi. Il y en a un qui a eu l'effronterie, quoi. Il a demandé, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ici? On n'a pas compris. On a raté un épisode. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est une belle femme, famille rousse. Il faut prendre la belle femme. C'est quoi cette histoire? Il leur a expliqué, il leur a dit, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce juif qui est émancipé est en train de s'intéresser à la Kabbalah. Quand il s'est intéressé à la Kabbalah, hein, il s'est posé la question suivante. On sait que dans la Kabbalah, il y a deux shitot, deux manières de voir les choses. Il y a le Ramak, et il y a le Arizal. Le Ramak, il a du Yichus. Sur le Ramak, on sait que c'est le, il est bien, il est basé solidement sur des commentaires avant lui, donc il a des parents, des grands-parents, il a des reins solides. Mais il n'est pas beau. Le Arizal, c'est très beau ce qu'il explique, mais il n'a pas de Yichus, lequel de choisir? Et Admor HaZaken, j'ai réfléchi. Je dis, le Yichus, c'est important, mais la beauté, c'est encore plus important.
Donc le Ramak, il dit son origine, elle est Dieu, au départ.
Oui, parce que quand on lit le Arizal, ça veut dire comme ça. Nous, comment on peut se permettre de dire tout ce qu'on fait avec le... En vérité, tout le Tania, ça va être sur le Arizal. Le fait de dire qu'un juif, c'est important par rapport à Kadosh Baruch Hu, et que le corps est important, et qu'il faut se travailler sur le corps, etc. Ça, c'est le Arizal. Le Ramak, qui t'aurait dit, moins t'as de matériel, mieux c'est, zappe le matériel. Faut zapper le matériel. Qu'est-ce qu'il vient de dire le Arizal? Le Arizal dit non. Ne zappe pas le matériel, au contraire. Le matériel, il est aussi près d'Akadosh Baruch Hu que le Gan Eden est près d'Akadosh Baruch Hu. C'est la même chose. Donc si tu es dans le matériel, occupe-toi du matériel. Vous comprenez comment les enjeux, ça change tout. Il a répondu, il a dit, le Yichus est important, mais une belle femme, c'est encore plus important. Voilà.